Qu'y a-t-il ?
Je viens de détecter une déficience de l'antenne radar.
Veuillez vous présenter à l'identification vocale.
Je veux que vous me parliez. Je voudrais vous entendre.
Est-ce excessif ?
S'il vous plaît, répondez-moi.
Cinérama.
Bonjour.
C'est bien. Encore une fois, bien articulé.
Cinérama.
Parlez normalement et détachez bien chaque réponse.
De quoi s'agit-il ?
Question intéressante.
Actualité cinéma.
Ah, un petit mot encore.
Et tout le reste.
En fait, nous avons tous les renseignements utiles. Oui, merci.
Juste un petit détail afin de mettre mon dossier à jour.
Vous avez vu un bon film aujourd'hui ?
Eh bien, oui, je crois que oui.
Oui. Non. Oui, on...
Bonjour et bienvenue à Cinérama qui continue son déballage de Cannes avec deux films issus d'un certain regard aujourd'hui. Et puis La Palme d'Or. Et puis toi, Manu, sont deux dessins animés.
Oui, je fais un spécial animation avec un dessin animé plutôt pour adultes, La Passion Van Gogh et Zombielennium.
Attention, ne confondons pas. Est-ce que ça vous chatouille ou est-ce que ça vous gratouille ?
Alors pourquoi on passe ça ? Eh bien, c'est Louis Jouvet qu'on entend dans Knock. Eh bien parce que Knock est un film qui sera dans les salles le 18 octobre et on a pu rencontrer la réalisatrice Lorraine Lévy. On entendra donc cette interview. On entendra une autre réalisatrice, c'est Kauter Benania, excellente réalisatrice tunisienne pour le film La Belle et la Meute. Marine nous parlera aussi de Taxi Sophia. Film donc qui était présent à un certain regard, mais on commence cette émission avec The Square. Ça, c'est La Palme d'Or, film de Rumen Östlund.
Et maintenant,
Cinérama.
Tout est parfaitement en ordre.
Christian, l'acteur danois Claes Bang, conservateur d'un musée d'art contemporain en Suède, prépare une exposition sur la tolérance et la solidarité. Il va inaugurer The Square, une installation incitant les visiteurs à l'altruisme et leur rappelant leur devoir à l'égard de leur prochain. Mais à l'issue d'un événement hasardeux, le conservateur va se heurter à ses propres limites en la matière et son univers va basculer. Alors on ne peut pas parler d'une palme d'or consensuelle. Hein. Elle en a même étonné beaucoup. Si le public et les journalistes semblaient satisfaits après la projection à Cannes, avec le sentiment finalement d'avoir passé un bon moment, personne n'imaginait que le film de Ruben Östlund obtiendrait la plus haute distinction du festival. Alors, film mordant avec ses pointes de cynisme, nous immergeant au sein d'un centre d'art contemporain aux prises avec ses œuvres pas toujours comprises, The Square suscite une certaine fascination. L'histoire de The Square est moins importante que ce qu'elle explore. Oui, le réalisateur s'amuse de l'art contemporain et dès l'entame du film, le ton est donné. Une séquence hilarante nous montre une interview de Christian, le directeur du centre d'art. Une jeune femme lui demande d'expliquer finalement une phrase piochée sur le site internet et qu'elle n'a pas comprise. Alors, il faut un temps avant que l'interviewé spécialiste de l'art ne traduisent le propos. Mais le réalisateur ne s'en prend pas qu'au monde de l'art, c'est davantage la société individualiste, la société médiatique et hypocrite dont il explore les contradictions. Le grand écart que réalise Ruben Östlund n'est pas simple et on lui reproche, à la manière d'un Haneke, il va confronter les bourgeois qu'il dépeint aux plus démunis et aux exclus sans toutefois donner de la profondeur à ses personnages secondaires. On est alors dans un dispositif politique, sondant le rapport de l'artiste, de l'intellectuel, du bourgeois, du nanti dans un monde où il n'a que l'embarras du choix pour voir la détresse. The Square regorge de scènes mémorables qui sont aussi bien écrites, signifiantes qu'elles sont bien filmées. Elles vont de l'ironie au cynisme en passant par la drôlerie. Et pour cela, le réalisateur use de beaucoup de procédés cinématographiques en utilisant le découpage, le champ contre champ, l'interaction du son et de l'image, les arrière-plans et l'image elle-même, en y plaçant notamment une performance très cinématographique, un moment saisissant qui prend tout son sens. Alors dans son précédent film Snow Therapy, avec ce père qui abandonne sa famille à la première avalanche, le réalisateur suédois évaluait le rôle de l'homme au sein de la famille moderne. Avec The Square, il questionne le désengagement des hommes et leur hypocrisie. Il en profite pour brosser une satire du fonctionnement actuel des médias. Et on va écouter Ruben Östlund nous parler de The Square. C'était lors de la conférence de presse du Festival de Cannes où nous étions. Et c'était avant qu'il obtienne la Palme d'Or.
On travaille dans le cinéma de façon visuelle. On essaie de s'exprimer de façon spectaculaire ou même amusante et les images doivent avoir une signification. On essaie donc de composer quelque chose. L'image en soi suscite des réflexions, un petit peu comme une peinture. Pourquoi le blanc ? Parce que j'ai été dans de nombreux musées d'art contemporain et il y a une expression, on parle parle de cubes blancs quand on parle d'art contemporain. Et parfois, il y a un petit peu de gravier sur le sol, et d'un seul coup, avec deux, trois miroirs, ça fait une œuvre d'art. Et c'est ce qu'on voit dans ces musées. Donc, ça rend l'art encore plus trivial. On a essayé de s'attaquer un peu à ce monde-là, l'amener à se poser des questions, l'amener à se demander ce qu'il fait, ce monde artistique contemporain. Est-ce que ce monde artistique contemporain ne se comporte plus que de manière routinière aujourd'hui? Ou est-ce qu'il se pose encore des questions? Donc je pense que nous pouvons aussi remettre en cause le monde dans lequel nous vivons, notre propre monde. Est-ce que nous agissons encore par sens de la routine ou est-ce que nous réussissons encore à casser les conventions? On joue tous des rôles de toute façon.
Singe et acteur qui joue un singe dans The Square, la palme d'or du Festival de Cannes, c'était Ruben Östlund, son réalisateur. Et avant de retrouver bien les deux autres interviews de cette émission, on se fait un petit dessin animé.
C'était pas mauvais, c'était très mauvais, voilà.
Cinérama.
Mais c'est horrible, mais qu'est-ce que ça peut bien être?
Il s'est donné la mort.
Comment un homme peut se sentir apaisé et mettre fin à ses jours quelques semaines plus tard?
Il l'a écrite avant de mourir.
Théo Van Gogh, c'est le frère de Vincent, non?
Je comprends pas pourquoi il tient à ce que je livre le courrier d'un mort.
Si tu étais mort et que je savais qu'il y a une lettre quelque part que tu m'avais envoyée, je la voudrais.
Alors reprenant hein, la thèse éculée comme quoi Van Gogh ne se serait pas suicidé mais aurait été assassiné comme JFK, hein. Ce long métrage d'animation hein, souffre en premier lieu d'un scénario extrêmement scolaire, poussif, jamais transcendé par la virtuosité d'une technique graphique époustouflante mais rapidement irritante. Alors pourtant le début intrigue, hein, d'autant que les auteurs s'embarquent dans un récit mené sous la forme d'une enquête policière, insérant une série de flashbacks en noir et blanc. Alors, Paris était 1891, hein, Armand Roulin est chargé par son frère facteur, Joseph, de remettre en main propre une lettre au frère de Vincent Van Gogh, Théo. En effet, la nouvelle du suicide du peintre vient de tomber. Armand accepte sans enthousiasme, ne portant pas le peintre dans son cœur, mais il apprend que Théo, terrassé de chagrin, n'a pas survécu à la mort de son frère, disparaissant peu de temps après. Alors, il se rend à Auvers-sur-Oise, où le peintre a vécu ses derniers jours. Il interroge les gens qui l'ont connu et découvre alors un personnage qui va finir par le bouleverser. Alors comme ça, sur le papier, hein, l'histoire n'est pas inintéressante, mais elle ne produit rien à l'écran, l'émotion étant totalement absente de la première à la dernière image. Alors les auteurs du film, hein, la Polonaise Dorota Kobiela et le Britannique Hugh Welkman, sans doute trop confiants dans leur concept, ont visiblement oublié de réaliser un vrai film. La Passion Van Gogh ressemble, on va dire, à un produit télévisuel déployant un récit monotone, agrémenté d'éléments historiques convenus à peine plus palpitants qu'un article de Wikipédia. Alors si on fait abstraction de son originalité de surface, cette coproduction européenne est d'une morosité consternante. La direction d'acteurs est inexistante, le découpage filmique à peine plus inventif qu'une sitcom, et le scénario dénué d'enjeux de réflexion et même d'esprit un peu ludique. Alors le film s'enferme dans un programme nostalgico-mortifère enchaînant les réflexions convenues sur l'artiste à coups de dialogue ringard. Alors oui, La Passion Van Gogh après déploie une animation impressionnante, hein, composée de 125 toiles de l'artiste intégrées à l'intérieur des images dans leur totalité ou partiellement par plus de 90 peintres. Alors le travail est colossal, il se voit pleinement à l'écran, pas un plan sans un fourmillement de traits, de couleurs constamment en mouvement. Mais on est presque gêné du coup de devoir dire du mal de cette croûte imitant les toiles de l'artiste. Parce qu'au bout de 15 minutes, cette virtuosité devient contre-productive, la fatigue visuelle s'installe et on se désintéresse totalement de ce qui se passe à l'écran. Le style de peinture animée sur un vrai film live, je ne sais plus comment ça s'appelle exactement.
Rotoscopie,
oui. Ouais, ou un truc comme ça. Ouais. Avait déjà été utilisé en son temps par Ralph Bakshi, l'auteur de Avec un Seigneur des Anneaux, puis Tigre à la glace et le feu. Et plus couramment, parce que maintenant on appelle ça de la stop motion finalement, parce que c'est un peu la même chose, mais en image de synthèse. Alors ici, ça donne, on a vraiment l'impression d'assister à un spectacle désuet, un tour de force qui s'épuise rapidement. Et puis enfin, le doublage est assez calamiteux, à commencer par la voix de Pierre Ninet, qui est assez insupportable. Enfin, ça, c'est personnel. Alors, non seulement cette passion Van Gogh finit par piquer les yeux, mais elle donne aussi envie de se boucher les oreilles. J'avais pas envie d'être méchant, mais j'ai subi vraiment.
Bon, tu reviendras un peu plus tard dans l'émission avec un deuxième dessin animé qui a été
un peu plus agréable.
Un peu plus réussi. Adaptation de la célèbre pièce de Jules Romain en salle le 18 octobre, Knock est très attendue. Alors, cela fait longtemps qu'elle n'a pas été adaptée au cinéma, depuis la version de 51 de Guy Lefranc avec Louis Jouvet. Et cette fois-ci, eh bien, c'est Omar Sy qui s'y colle, la personnalité préférée des Français. Marine l'a vu pour nous, Knock, et nous avons aussi rencontré la réalisatrice Lorraine Lévy.
Vous avez vu un bon film aujourd'hui ?
Cinérama.
Non, j'ai été plutôt déçu.
Alors, c'était sûrement une comédie.
Années 50, Knock est un petit truand de bas étage qui, pour échapper à ses dettes, s'enfuit à bord d'un bateau. Il réussit à s'y faire embaucher comme médecin et comprend alors à quel point ce poste peut lui apporter le respect, la notoriété et surtout de l'argent. De retour en France et fort d'un vrai diplôme, cette fois en médecine, il s'installe dans une petite ville du sud de la France et entend bien appliquer une simple méthode de marketing à son activité de médecin. Pour lui, une personne bien portante est un malade qui s'ignore et partant du principe que chaque être humain est potentiellement hypochondriaque et donc ravi de payer pour être soigné, il va vite s'imposer en véritable sauveur, ce que va voir d'un très mauvais œil le curé du village. Alors, Knock, à la base, c'était une pièce de théâtre de Jules Romain, une pièce extrêmement sombre, écrite à l'aube de l'avènement du nazisme, qui dénonçait entre autres la manipulation des foules. Le personnage principal était abject et l'humour profondément noir. Presque un siècle plus tard, après tout de même plusieurs adaptations au théâtre et au cinéma, Lorraine Lévy s'attaque à une nouvelle relecture de Knock. De l'histoire initiale, eh bien, il ne demeure pas grand-chose. La réalisatrice a tellement édulcoré la pièce qu'elle en devient une gentille comédie innocente. Pire, le message, la morale, la critique qui faisait le sel de Knock ont été presque effacés par les hectolitres de bons sentiments déversés dans cette production calibrée pour les plateaux télé en famille. En lieu et place d'une critique acerbe de la religion et de la médecine, il ne demeure plus qu'une gentille comédie qui repose sur un personnage supposément attachant. Le simple fait d'avoir choisi Omar Sy, alias la personnalité préférée des Français, pour interpréter le docteur Knock, en dit long sur cette volonté de dédramatiser le personnage. Mauvaise pioche en outre, puisqu'Omar Sy ne tire vraiment pas ici son épingle du jeu, hein. Entre une interprétation peu crédible et ses éternelles mimiques qu'il recycle jusqu'à plus soif, celui qui a reçu le César du meilleur acteur en 2012 montre quand même bien ici les limites de son talent. Alors est-ce que c'est une volonté de rendre hommage au cinéma d'antan, ou est-ce que c'est tout simplement une facilité de la part de la réalisatrice qui a voulu rendre son film accessible à tous les publics ? Toujours est-il qu'elle réussit l'exploit de rendre extrêmement ringard ce pamphlet pourtant intemporel. Alors ce n'est pas que la mise en scène soit mauvaise, hein, c'est juste qu'elle fait le minimum, ce n'est pas que les comédiens soient mauvais, c'est qu'inversement eux en font des tonnes, tout cela dans un décor de France des années 50 fantasmé qui sent la naphtaline et le toc, ce qui résume plutôt bien donc Knock, une comédie dont on peut largement se passer.
Ben voilà, comme ça c'est dit, mais on va écouter bien la réponse de la réalisatrice Lorraine Lévy qui nous parle de son Knock.
C'est lui.
Qu'est-ce qu'il a de pas comme nous ?
Il est de la haute.
Il est beau, très beau.
Tu m'avais pas dit ?
Pas dit quoi ?
Qu'il était...
Qu'il était quoi ?
Grand. Oh, très grand.
Lorsque Jules Romain a écrit Knock, on est en 1923, et il est très, très impressionné, et l'avenir lui donne hélas raison, par la création du parti... qu'Hitler a fait 3 ans plus tôt, en 1920, et qui déjà prône la suprématie de la race aryenne. Et il voit ce petit bonhomme hystérique asservir les foules avec un discours hallucinant, et ça lui fait peur. Et son Knock est empreint de ça. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il est si dur, si cruel, si cassant. Et dans le Knock de Jules Romain, il n'y a aucune revanche. C'est un personnage qui veut asservir la population à ses propres desseins. Alors que moi, j'ai justement détourné, j'ai pas gommé toutes les aspérités du personnage, il s'agissait pas de faire un oui-oui à Saint-Maurice, mais disons que j'ai décalé un peu mon propos, de façon à lui donner plus de modernité, et je me suis éloignée des thèmes qui avaient influencé Jules Romain pour aborder des thèmes qui aujourd'hui me semblent importants à traiter aussi, comme ceux dont je vous ai parlé.
Voici le médecin du pays.
Et la population est pauvre ?
Très aisée au contraire, et même riche.
Mon cher confrère, vous avez gâché une situation magnifique. Vous auriez dû repartir couvert d'or.
Je ne voulais pas gommer les aspérités du personnage. J'ai même essayé d'en proposer d'autres. Il est cynique. Il a cette volonté de truander pour s'enrichir, de manipuler, mais avec panache. Et autant dans la version proposée par le créateur, Jules Romain, il n'y avait absolument aucun amour, aucune bienveillance, Il y avait même du mépris. Il y a deux personnages dans la pièce que je n'ai pas repris, moi, dans mon adaptation, et qui sont broyés littéralement par Knock. Alors que moi, mon Knock à moi, il truande, mais avec affection.
C'est drôle, pour tout le monde ici, vous êtes un saint. Sauf pour le curé.
Seigneur, donnez-moi la force de lutter contre le mal qui gagne Saint-Maurice. Hein, aidez-moi à démasquer les imposteurs.
Il séduit les gens importants pour lui. Et il sait évidemment que le curé ne va pas lui amener de la clientèle, puisque c'est lui qui va prendre au curé sa propre clientèle. Donc il y a une rivalité. Ouais. Et c'est vrai que ce n'est donc pas lui qui va voir son rival. Mais quand son rival vient le voir, le match commence. Et on peut compter les points.
Tu me reconnais ? Lansky. J'en aurais des choses à raconter. Ça fait pas bonne impression, ça, ton passé de petit merdeux.
Le premier éclat de rire dans une salle de cinéma, c'est quoi ? C'est l'arroseur arrosé. Bon, si l'arroseur n'est pas arrosé, personne ne rit. Donc, il faut bien faire rire avec ce qu'on a. Je suis allée beaucoup moins loin que Don Camillo, qui faisait rire nos parents et nos grands-parents. Moi, je n'atteins même pas le premier étage de cette fusée-là. Mais quand même, il faut donner un petit peu de distance et de sourire. Tous les personnages ont ce traitement-là. Ils ont tous un grain. Tous. Et c'est en ça que c'est un petit village baroque. Je ne cherche pas à les ridiculiser, au contraire, je cherche à les aimer à travers leur travers.
La population de Saint-Maurice est bien portante.
Les gens bien portants sont des malades qui s'ignorent, monsieur le maire.
Le docteur Knock fait savoir qu'il donnera tous les mardis une consultation entièrement gratuite.
Gratuitement, ça cache quelque chose et ça n'est pas normal.
Je suis médecin. À ce titre, je me dois d'abord à mes clients.
Le docteur Parpalais disait mes patients.
4000.
Mais vous m'aviez dit 3000.
C'est plus grave que ce que je pensais.
C'était Lorraine Lévy, la réalisatrice de Knock, en salle le 18 octobre. Film avec Omar Sy. Et on passe à tout autre chose avec l'interview de Kauter Benania.
J'entends beaucoup parler de votre travail.
Cinérama.
On s'en passera aisément.
Kauter Benania fait partie des réalisatrices tunisiennes qui ont la cote. Alors déjà parce qu'il y en a peu de réalisatrices tunisiennes, mais surtout, elle se fait une place avec un cinéma inventif. Après le Chalat de Tunis en 2015, un faux documentaire dans lequel elle nous racontait l'histoire fantasmé ou non, d'un homme ou plusieurs qui balafraient les fesses des femmes dans la rue, eh bien, elle revient avec La Belle et la Meute, une fiction qui s'empare d'un fait divers, celui d'une femme victime d'un viol et son combat pour le faire reconnaître, se battre contre finalement la banalisation du mal, dirait la réalisatrice. La Belle et la Meute nous place pendant une nuit à Tunis, aux côtés de Mariam et de nombreux personnages qu'elle va rencontrer, ceux qui vont l'aider, mais également ses bourreaux. Construit d'une dizaine de plans-séquences, cette fiction ne parle pas seulement de la place de la femme en Tunisie, il évoque de manière convaincante les mutations de la société tunisienne et l'émergence d'une prise de conscience. Car Mariam, la victime, n'est pas une militante, mais elle va pourtant tout faire pour que son viol ne soit pas impuni. Utilisant certains codes du thriller avec des moyens sommaires, les bureaux glauques de la police, la nuit, l'isolement du personnage, Kauter Benania nous tient en haleine. On écoute la réalisatrice tunisienne Kauter Benania qui insiste sur les moyens cinématographiques qu'elle a utilisés pour faire vivre au spectateur le calvaire de son héroïne.
Le film, on a besoin d'un drame. Moi, je ne vais pas montrer quelque chose où tout va bien. Personne n'ira voir ce film. J'étais très fascinée par le courage de cette jeune femme qui a su aller jusqu'au bout, demander justice. Et je me suis dit, voilà une héroïne contemporaine. C'est une fille comme tout le monde. Elle pourrait être n'importe qui. Il n'y a rien qui la prédispose pour être une héroïne. Et malgré tout ça, elle se révèle à elle-même, elle se révèle à nous, elle va jusqu'au bout. Donc j'aimais bien cette idée de combat jusqu'au bout, de quête de justice. C'est des plans séquences où il n'y a pas de montage. Donc on est dans le temps réel du moment, dans un seul décor. Et le temps réel au cinéma, ça implique vraiment le spectateur. Parce qu'on est comme dans la vie, on est plongé. Et avec cette caméra, on est avec elle dans cette trajectoire. En plus, j'avais envie de travailler sur l'ellipse. Donc c'est une nuit, mais entre chaque fragment, il se passe des choses. C'est dans le noir. Et donc j'avais envie qu'on intègre aussi la longueur de la nuit, mais dans un récit qui fait 1h40. Et cette forme, elle me permettait ça. Ensuite, j'ai des décors qui ne sont pas extraordinaires. C'est des corridors et des bureaux de fonctionnaires. Donc comment leur rendre l'aspect claustrophobe et oppressif de ces lieux-là Le plan séquence, je trouve qu'il rend ça plutôt bien. Et en plus, voilà, on est avec elle tout le temps.
Est-ce que vous êtes inspiré d'autres films, notamment ne serait-ce que pour la construction des plans séquences?
Oui, absolument. Moi, dans ce film, il y a une forte inspiration du cinéma de genre, les thrillers, les films d'horreur, le film noir aussi. Et j'aimais bien cette idée de faire un film qui soit... J'ai vu, je ne sais pas, dans un journal qu'il était classé comme film policier. Ça m'a fait sourire. Parce que dans un film policier, un film noir classique, il y a l'affaire à résoudre. Il y a les preuves qu'on cherche. Et à travers les preuves, on résout l'énigme et on sait c'est qui le coupable et on accuse tout ça. Alors que dans ce film, on sait dès le départ ce qui s'est passé. Les preuves sont là, mais personne ne veut les voir.
Le fait que vous ayez commencé avec le documentaire, est-ce que ça vous a aidé à construire le film, par exemple, comme ça? Si on pense en termes de plan séquence, alors c'est pas uniquement le documentaire, parce que le documentaire, il y a des montages, ouais, évidemment. Mais est-ce que là, ça a pu vous aider quand même à construire ce film?
Alors le documentaire, il m'a aidé, mais il m'a aidé autrement. Pas dans la forme, mais plus dans la recherche de l'authenticité. C'est-à-dire, je me suis beaucoup documentée sur les pratiques dans les postes de police. Je voulais savoir ce qui est crédible, ce qui l'est pas. Comment les policiers entre eux, ils se parlent, l'hiérarchie de la police. Donc ça c'est un travail de recherche qu'on fait. Le documentaire aussi m'a aidé à diriger les comédiens, à leur demander plus d'être plus naturel. Voilà, je pense que ça m'a aidé dans ce sens-là, oui.
Sur les personnages et leur ambiguïté, est-ce que le cinéma se nourrit de ça finalement? Quand on construit un film, est-ce qu'on a besoin de ces personnages, de mettre des zones d'ombre?
Oui, je pense, parce que les personnages, sinon on va être dans le cliché, dans des personnages à une seule dimension. Et les gens dans la vie sont ambigus, ils ont plusieurs comportements, ils peuvent être imprévisibles, tout ça. Et moi, mon film, la protagoniste, elle traverse des institutions, mais elle traverse aussi une galerie complexe de personnages. C'est des petits rôles entre guillemets, mais où chacun, j'ai essayé de lui donner une existence même en dehors du film pour rendre ces personnages secondaires riches. Et comme j'étais aussi dans une configuration de plan séquence, je n'avais pas le droit à l'erreur par rapport même aux petits figurants qui passent dans l'arrière-plan, parce que si ils se plantent, on recommence tout. Les rôles secondaires, ils étaient très très importants pour l'équilibre des scènes aussi.
C'était Kauter Benania, réalisatrice tunisienne de La Belle et la Meute, en salle le 18 octobre, un film que je vous recommande tout particulièrement. Après Taxi 1, 2, 3, 4, Taxi Driver, Taxi Téhéran, voici un nouveau venu, Taxi Sofia, présenté en compétition Un Certain Regard à Cannes cette année, et Marine l'a vu.
Voyez ce que vous pouvez nous concocter de beau dans ces 5 minutes.
Cinérama.
C'est un passe-temps surprenant.
Tout commence par un fait divers qui a réellement eu lieu à Sofia en Bulgarie. Un petit entrepreneur qui fait également le taxi pour combler ses fins de mois et qui attend l'octroi d'un prêt se retrouve face à un usurier sans scrupules qui lui fait du chantage pour lui extorquer davantage d'argent. Acculé, désespéré, il finit par le tuer et par se suicider. Ce fait divers n'est que le point de départ de Taxi Sofia, sorte de faux film choral dont le fil rouge est la misère qui règne dans la capitale bulgare et qui brise ses habitants. Ainsi, le spectateur est transporté de taxi en taxi le temps d'une nuit. Alors le procédé n'est pas nouveau, hein. On pense à Ten de Kiarostami, on pense à Taxi Téhéran de Jafar Panahi. Pourtant, il fonctionne encore une fois très bien en permettant de dresser une édifiante galerie de personnages. Alors on n'évite pas le défilé quasi exhaustif des problèmes sociologiques. Cela va de la lycéenne qui se prostitue, au prêtre devenu chauffeur ou encore au prof suicidaire en passant par l'entrepreneur parti s'enrichir ailleurs. Initialement intitulé Direction, Taxi Sofia, c'était un peu mon coup de cœur de la sélection Un Certain Regard à Cannes. C'était la première fois depuis de très nombreuses années que la Bulgarie était présente sur le festival. Et pour cause, hein, on comprend malheureusement à la vision de Taxi Sofia que faire des films n'est pas actuellement une priorité dans ce pays frappé de plein fouet par la crise économique. Stéphane Commandarève, le réalisateur, a voulu dresser un portrait très cru de la société à travers cette économie parallèle des taxis de Sofia. Aujourd'hui, de nombreux Bulgares sont obligés de s'improviser chauffeurs de taxi la nuit pour compléter un travail de jour insuffisant à leur survie. Les scènes du film ont été tournées dans des conditions réelles, dans les rues de Sofia, en plan séquence, ce qui participe à l'intensité communicative du récit, qui plus est porté par des comédiens très convaincants. Et puis, la grande force du film, c'est de jongler entre les genres et les tonalités. On passe de la comédie pure au drame. Il en résulte un film amer, souvent cruel, globalement mélancolique et surtout, je pense, important de par sa rareté et par sa radicalité. Taxi Sofia, c'est dans les salles et je le conseille vivement.
Taxi Sofia de Stefan Commandarev est sur les écrans depuis le 11 octobre. C'est le dernier film déjà de l'émission. À nouveau, un dessin animé pour Manu.
Voyez ce que vous pouvez nous concocter de beau dans ces 5 minutes.
Cinérama.
On va regarder ça.
Et on finit par une note pour le jeune public, hein, puisqu'on parle quand même rarement de dessins animés pour enfants ici.
Et puis c'est bientôt les vacances.
C'est bientôt les vacances, voilà. Donc Zombielennium, hein, est un parc d'attractions qui a pour particularité d'avoir de vrais monstres, ainsi les vampires, les zombies, les loups-garous et autres formes démoniaques parfois indéterminées dont l'âme appartient au diable, tiennent la boutique en quelque sorte, mais sont épuisés par leur travail, déprimés par une fréquentation en baisse et l'attitude des humains consuméristes et voyeurs. Alors jusqu'au jour où Hector, hein, contrôleur des normes de sécurité, déterminé à fermer l'établissement, est mordu par Francis le vampire qui dirige le parc, par nécessité afin d'éviter la faillite. Alors devenu lui-même un monstre ressemblant étrangement à Hellboy, le film de Guillermo del Toro, déprimé car séparé de sa fille, Hector pourrait être le sauveur néanmoins de cette entreprise plus aussi fructueuse que par le passé. Il va rencontrer donc un vampire pervers et narcissique, tout droit sorti de la série Twilight, ainsi qu'une charmante sorcière gothique portant un t-shirt de Nine Inch Nails et stagiaire de son état et aussi fille du diable.
Alors ma fille, ton stage se passe bien.
Qu'est-ce que tu veux ?
Je veux que tu emmènes les zombies en enfer.
En enfer ? Jamais ! Tous les monstres ont leur place dans ce parc.
Gretchen, nous venons de signer un pacte avec les humains. Et désormais, ce parc est le leur. Ils veulent des vampires qui transpirent des paillettes pour émouvoir les gamines.
Vous y allez un peu fort, là.
C'est leur choix. C'est la loi du marché. Si les zombies ne s'en vont pas, le parc ferme.
Et bien qu'il ferme ! Et les vampires descendront avec le reste.
Ne m'oblige pas à le faire moi-même.
Si tu enfermes les zombies, je détruis tout.
Les auteurs ont développé une galerie de personnages réjouissants, haute en couleurs, hein, attraction principale de cette production franco-belge qui ne trahit jamais ses origines. Alors pas révolutionnaire pour un sou, mais très sympa. Zombielennium a le grand mérite de ne pas lorgner du côté de l'animation type Pixar, Disney ou DreamWorks, mais aussi EOD Manga pour proposer une alternative courageuse très ancrée dans la culture française. Et ce malgré une histoire s'articulant autour de figures monstrueuses appartenant parfois à un imaginaire largement récupéré par la culture anglo-saxonne. Mais les auteurs sont assez malin en situant l'action, on le suppose, au nord de la France ou en Belgique. Le parc d'attractions est assimilé à une usine, en fait, en perdition, où les gens sont exploités, et le diable a un chef d'entreprise classique plaçant sa fille rebelle au sein même d'un univers de prolétaires. Alors c'est assez bien vu, drôle et roublard, l'allégorie est plutôt pertinente et prend un tour caustique lorsque les ouvriers se mettent à marmonner l'air des corons de Pierre Bachelet. C'est assez amusant d'ailleurs. Hein. Et cerise sur le gâteau, il y a même un squelette leader syndicaliste qui fait un appel à la grève générale. Alors, en adaptant sa propre bande dessinée, hein, diffusée à l'origine dans le magazine Spirou, Arthur Dupin, associé à Alexis Ducor pour l'occasion, hein, réussit son coup sans faire un copier-coller. L'histoire est différente, c'est un personnage comme Hector ou le jeune vampire absent de la BD ont été créés pour l'occasion. Alors malgré quelques baisses de régime et une écriture parfois paresseuse, Zombielennium est un rafraîchissant cocktail d'humour et de frissons destiné aux jeunes publics avec en arrière-plan un discours social assez étonnant. L'animation fluide et les décors très stylisés accentuent le plaisir éprouvé devant ce très réussite mineure qui ne joue pas constamment la carte du second degré ou de la référence déplacée comme dans beaucoup de longs métrages d'animation pour attirer les adultes. Je trouve que le film vise vraiment le public des 8-13 ans et il le fait plutôt bien.
Oui, mais contente aussi donc les adultes parce que pour retrouver la référence de Bachelet...
Oui, c'est sûr qu'il y a, il y a tout le côté de l'arrière-plan social qui évidemment parlera davantage aux adultes mais qui peut être aussi compréhensible à mon avis pour le jeune public.
Bon allez, la semaine prochaine, tu nous parleras de Opération Casse-Noisette 2.
Alors méfiez-vous des apparences et contrôlez toujours qui est qui.
Qui est qui ?
Il va falloir contrôler qui est qui.
Quoi, qui est qui?
Bah quoi, qui est qui, quoi?
Eh bien, qu'y a-t-il?
Auriez-vous oublié que nous partons?
La séance est levée.
Je crois que nous n'avons plus rien à nous dire.
Inutile d'avoir des regrets, c'est trop tard.
Alors nous avions 3 interviews dans cette émission. La semaine prochaine, nous n'en aurons plus qu'une, celle de Tarek Boudali pour son film Épouse-moi, mon pote. C'est une comédie encore. Et on vous parlera de Logan Lucky et puis aussi de Au revoir là-haut, le dernier du Pontel.
Et puis moi, je vous parlerai d'un film que j'attends depuis très longtemps qui s'appelle Laissez bronzer les cadavres d'après Manchette.